Nous lirons d'abord dans le livre d'Ésaïe au chapitre 50, les versets 4 à 7. Le Seigneur Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par une parole celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas rebellé et je ne me suis pas dérobé. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je ne me suis pas détourné des insultes et des crachats. Mais le Seigneur Dieu m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été confus. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à du granit, sachant que je n'aurai pas de honte.
Nous lirons ensuite un extrait de l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui, qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même et se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Et voici l'évangile de ce jour dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, à partir du verset 29 jusqu'au verset 40. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de Mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant : Allez au village qui est en face, et quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi détachez-vous, vous lui direz : Le Seigneur en a besoin. Ceux qui avaient été envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent : Pourquoi détachez-vous l'ânon ? Ils répondirent : Le Seigneur en a besoin. Ils l'amenèrent à Jésus, puis ils jetèrent leurs vêtements sur l'ânon et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait de la descente du mont des Oliviers lorsque toute la multitude des disciples, tout joyeux, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait : Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les cieux très haut. Quelques pharisiens du milieu de la foule lui dirent : Maître, rabroue tes disciples. Il répondit : Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. Où irions-nous, Seigneur, car tu as la parole de la vie éternelle. Amen.
Chers amis, si vous allez à Bangui, en République centrafricaine, et que vous demandiez à aller au culte comme ce matin ici, on vous orientera certainement vers l'église du Christ Roi, la plus vieille paroisse protestante francophone de la ville. Christ Roi, l'appellation m'a toujours intrigué et je l'avoue quelque peu agacé. Je crois que dans l'ensemble de l'Afrique francophone, c'est seulement à Bangui qu'on trouve cette dénomination de majesté christique. En fait, le thème de Christ roi était répandu dans la dernière moitié du XIXe siècle, en Allemagne, ici en France. On a beaucoup parlé de Christ roi. Le mouvement du christianisme social, dont j'ai fait une petite introduction tout à l'heure avant le culte, recourait lui aussi volontiers à cette thématique de la toute-puissance et de la seigneurie du Christ. Cette insistance sur la seigneurie du Christ a commencé cependant à devenir assez discrète, presque désuète, surtout après les deux guerres mondiales et la Shoah. Aujourd'hui, même en Afrique, l'expression « Christ roi » fait penser à une sorte de secte. Il me semble qu'actuellement en France, cette appellation relève plutôt du lexique catholique romain et renvoie à des représentations chevaleresques ou à d'obscures confréries médiévales. C'est pour cette raison aussi que l'épisode de l'entrée de Jésus à Jérusalem, peu avant sa passion, mérite une méditation plus attentive, moins tapageuse, distincte du triomphalisme, sans allusion aux pompes impériales. Contrairement à Marc et à Matthieu, Luc nous dépeint un cortège réaliste, assez sobre, un cortège qui n'est pas infiltré par des inconnus, des gens extérieurs au cercle du disciple de Nazareth. Marc et Matthieu parlent, eux, des foules qui se mêlent à la procession et semblent récupérer la marche visiblement transformée en manifestation. Certes, chez Luc aussi, il s'agit des multitudes, mais ce sont des multitudes des disciples. Les acclamations qu'elles profèrent sont faites en connaissance de cause. Cette multitude avait reconnu en la personne et dans les actes du Christ des miracles, c'est-à-dire des signes de l'agir de Dieu face au malheur personnel des gens, des merveilles de Dieu, y compris dans l'existence collective et le cours de l'histoire. Le cortège que décrit Luc, composé de foules de disciples, n'est pas noyauté. C'est une procession religieuse, une sorte de manifestation de théologie publique, une confession de foi en marche, des cris de joie, mais également des vêtements et des tuniques jetées aux pieds de Jésus en guise d'hommage. L'ambiance est festive, un grand emballement d'allégresse. Pourtant, il n'y a pas de débordement. On ne vandalise pas les arbres sur le passage. Chez Luc, pas de branchage ni de palmes arrachées puis agitées. On le voit bien dans le contexte de ce jour qui précède la Pâque juive, c'est une montée messianique que les disciples saluent en la personne de Jésus. Malgré sa monture dérisoire, le Messie se révèle là, conformément aux promesses anciennes. Tandis que le quatrième évangile donne une description très personnalisée de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, Luc nous montre un Jésus retenu dont la seigneurie n'est pas encore manifestée. Pour l'auteur du quatrième évangile, Jésus fait tout. Il est le centre de ce qui se passe là. Il le dirige de sa propre autorité. C'est lui qui trouve l'anneau. C'est lui qui monte dessus et s'assit, comme si ce déploiement de l'autorité était la cause, dans le récit de Jean, des acclamations même du peuple. Rien de tel chez Luc. Tout ce que Jésus fait, c'est de demander qu'on lui amène un anneau. Une fois cela fait, tout s'enchaîne sur l'initiative des disciples, uniquement sur leur initiative. Ce sont les disciples qui ont ramené l'animal, c'est eux qui ont fait monter Jésus dessus, après y avoir placé leur manteau, c'est eux enfin qui jettent d'autres manteaux sur le chemin pour honorer leur maître, en même temps qu'ils l'acclament tout au long de la procession. On le voit ici, Jésus est plus l'objet de cette explosion spontanée de louanges qu'il n'a nullement suscité. Sa discrétion cependant s'estompe lorsque les pharisiens lui demandent de faire taire ses disciples, suggérant ainsi sournoisement que Jésus aurait manipulé la foule des partisans et des sympathisants. Jésus coupe court. S'il se taise, ses pierres elles-mêmes crieront. Ce qui veut dire, on peut peut-être influencer les gens, les convaincre d'agir dans un sens ou dans un autre, mais peut-on le faire des choses inertes, les pierres et les cailloux? Le jaillissement de la reconnaissance par ses cris de joie est plus fort que les bouches qui la profèrent. Rien ne pourrait bâillonner, brider ou censurer cette louange. Et bien qu'elle soit sans langage, les pierres elles-mêmes pourraient en témoigner. Et de fait, quand la chute de Jérusalem aura eu lieu en 70 de notre ère, les murs du temple seront renversés. Et là, ce sont les pierres qui ont parlé. On comprend alors pourquoi, immédiatement après l'épisode de cette caravane du Nazaréen à la porte de la ville sainte, Jésus a pleuré. Il disait, « Si toi aussi tu avais su, en ce jour, reconnaître cette paix, trouver la paix. » En effet, au you-you des disciples et des sympathisants se mêlaient les phrases d'acclamation en hommage au prophète roi venu de Galilée. « Béni soit le roi qui vient, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Gloire au plus haut des cieux. Vous avez reconnu, c'est la même phrase qu'à la naissance de Jésus, dans ce même évangile au chapitre 2. Mais la différence des détails entre les deux citations. À la naissance du Sauveur, les anges chantaient « Paix sur la terre ». À sa montée vers la croix, la paix est dans le ciel et non sur la terre. L'acclamation messianique du Christ a quelque chose de paradoxal. Si elle est une anticipation de son triomphe final et de sa gloire, cette célébration, par la foule des disciples, reste en creux une conscience de ce qui ne va pas, du règne de Dieu qui n'a pas de lieu là même où il devrait, où il doit avoir lieu. L'acclamation de celui qui vient au nom du Seigneur est ainsi une sorte de paradoxe et en même temps une lucidité sur le Messie lui-même et son tragique destin. Les cris d'allégresse que l'on entend entre Béthanie et Jérusalem ne sont pas de simples slogans liés à l'effervescence de la marche. Ce qui se passe là n'est pas non plus un défoulement à la manière d'un carnaval. Les paroles que l'on entend viennent de loin, de l'inconscient biblique de ce peuple en mouvement. Tenez, au psaume 118, le verset 26, on découvre cette mention qui est « mi-bénédiction, mi-proclamation laudative, béni soit celui qui vient ». Et c'est Luc qui reformule en disant « béni soit le roi qui vient ». S'agissant du contexte messianique, cela a le mérite de la clarté. Mais qui désire l'avènement d'un tel roi? Qui? Et pour nous ce matin, de quelle foule sommes-nous? Et en faveur de quel roi? Pour nous aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, plutôt tel qu'il va, qui a besoin d'un règne autre que le règne de ce que l'on voit et de ce que l'on entend? L'exacerbation des inégalités, le naufrage de notre propre humanité face à l'inacceptable, les catastrophes écologiques, toutes ces prévisions, prédictions sur l'effondrement de tout, les émeutes de la faim, les soulèvements pour la liberté, le règne des choses telles qu'elles sont, le Christ roi acclamé dans l'Évangile, l'Évangile de ce jour, est le fait de seuls disciples et non pas de l'opinion générale. Il n'est donc pas un consommable brisé de toutes les convictions. Le Christ roi n'est-il pas finalement une vision qui renverse les tables dans nos vies, dans les logiques du monde? Exigeant que l'on calme les esprits, que l'on modère les propos, les pharisiens savaient que certaines paroles glissent comme des passages à l'acte. C'est ce qui arrive. C'est cela qui arrive quand la révolte est en mouvement, quand la protestation est maintenue sans violence et que cela bouscule le statu quo et fait bouger les choses. Frères et sœurs, chers amis,
moment déterminé, il me semble que la seule procession qui vaille est résumée par ces quelques mots que je vais vous lire. Entends-tu cette musique qui court dans les corridors de l'univers? Des hommes et des femmes se lèvent. Ils viennent de partout. Leurs poches sont vides et leurs vêtements en lambeaux. La pauvreté est leur unique richesse. Ils ont tout partagé et pour eux n'ont rien gardé. Des hommes et des femmes se lèvent. Ils viennent de partout pour consoler ceux qui pleurent, combler des désirs de ceux qui ont faim. Dans leurs bras, ils prennent toute la misère du monde et leur cœur est ouvert comme une vaste maison pour des voyageurs perdus. Les hommes et les femmes se lèvent comme Jésus vers sa Pâque, dans l'énigme de la passion. Amen.